Robert Amadou, il faut que je vous pose une question, là. Il faut que vous satisfassiez ma curiosité. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, on n'est pas à la télévision, vous avez un aspect extérieur assez remarquable. Une grande barbe, un bonnet de laine sur la tête, vous êtes vêtu d'une robe, je ne sais pas comment, une sorte de soutane, qui n'est pas noire, mais qui est plutôt crème. Pourquoi ?
Parce que je suis prêtre. Parce que je suis prêtre.
Alors, est-ce que c'est bien porté dans la prêtrise de s'intéresser à tout ça? C'est pas le diable, un peu? Ça sent pas le soufre? Chauvin dit souvent, d'ailleurs, que ce sont des sujets sulfureux, mais ça, c'est pour dans un autre ordre d'idée.
Écoutez, le diable peut se mêler de tout. Il peut se mêler de ces sujets-là aussi. Le temps est passé où l'on attribuait tous ces sujets à l'intervention du diable. Il ne faut pas évidemment tomber dans l'excès contraire. Que ce soit sulfureux, je ne pense pas qu'on doive le dire. Je crois, si vous voulez, qu'il peut y avoir une sorte de diagnostic différentiel qui est apporté sur un certain nombre de cas que l'on présente ou qui se présentent comme diaboliques, mais qu'il ne faut pas envisager l'hypothèse du diabolisme d'abord. C'est une hypothèse qui ne doit être, je pense, et c'est l'opinion générale, utilisée et vérifiée, avancée avant d'être vérifiée, qu'après avoir épuisé les autres hypothèses.
Alors ça fait 25 ans, 30 ans que vous occupez de tous ces sujets.
Largement, un petit peu plus de 30 ans même.
Alors il vous arrive de faire des conférences, d'être en contact avec le public comme nous le sommes nous, à la radio, et qu'est-ce qu'on nous demande le plus? C'est des explications. Alors là on a parlé en termes un petit peu intellectuels de la parapsychologie, qu'est-ce qu'on peut en penser, qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il ne faut pas croire. Pour ceux sur qui ça tombe, si je puis dire, ils sont souvent bien embêtés parce qu'ils n'ont pas de réponse et c'est pas drôle quelquefois de se sentir au centre de phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors il y a ceux qui disent bah, tout ça c'est des histoires de bonnes femmes et finalement il y a des crédules et des gogos, puis il y a les autres gens qui réfléchissent dont vous êtes. Alors qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Parce que par exemple, bon, je vais vous donner un exemple, hein, là au téléphone, au 524-7000, on a pas mal de témoignages. Daniel, par exemple, qui nous dit « Je fais beaucoup de rêves prémonitoires, mais entre autres, à partir de l'âge de 4 ans jusqu'à la mort de sa mère, elle a fait le même rêve 6 fois environ, 6-7 fois. Elle a rêvé qu'un sanglier venait heurter le lit de sa mère jusqu'à arriver à renverser le lit et sa mère. Et en 1949, en prenant le train, sa mère a été bousculée par la foule et elle est passée sur la voie ferrée, elle en est morte. » Bon, c'est un événement qu'on ne peut pas oublier. Je veux dire, c'est quelque chose qui doit bouleverser beaucoup, qui doit changer la vie, quoi.
Oui, ça fait beaucoup de questions et je me préparais à répondre à la première lorsque vous avez lu ce témoignage. Oui, mais oui. Ça s'en rejoint tout à fait, parce que vous avez parlé de la mort. Et j'allais vous répondre que vous m'avez dit quelles sont les questions qu'on pose le plus souvent. Eh bien, elles ont trait un peu aux prémonitions de mort, peut-être, mais surtout aux communications avec les morts. Et ça, je pense que ce qui intéresse peut-être le plus personnellement et le plus communément ceux qui cherchent des réponses à des inquiétudes dans la parapsychologie, c'est le problème de la mort d'une façon générale et plus particulièrement peut-être le problème de la communication avec les morts. Des rêves comme ceux que du type de celui que vous avez lu à l'instant ne sont pas rares. Bien sûr, dans la mesure où l'on veut critiquer les témoignages d'une manière extrêmement rigoureuse, beaucoup ne sont pas acceptables. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas authentiques. Il faut savoir, si vous voulez, le jeu que l'on joue. Mais il y a suffisamment de cas bien attestés pour que l'on puisse, je ne dis pas authentifier tous les autres, mais pour que l'on puisse considérer non seulement la possibilité générale, mais l'existence dans un bon nombre de cas, et par conséquent, ne pas exclure a priori un témoignage, même s'il n'est pas tout à fait vérifié, si vous voulez. Alors, ce qui intéresse aussi beaucoup, bien sûr, c'est une question qu'on pose très souvent, c'est la réincarnation.
On l'a, là, d'ailleurs, oui, j'ai pas mal de fiches qui parlent de ça, on vous demande ce que vous en pensez.
Écoutez, la réincarnation, c'est une doctrine religieuse, une doctrine philosophique, ses lettres de noblesse, Pythagore, Platon, les doctrines hindoues, même un père de l'Église comme Origène, qui n'a pas été exempt d'erreur, mais je ne sais pas si c'était une erreur ou non, mais Origène a défendu la réincarnation. Il y a là, si vous voulez, vraiment deux problèmes. Si on s'en tient à la parapsychologie d'un point de vue strictement scientifique, on a fait des recherches, en particulier un Américain, Ian Stevenson, dont vous connaissez
probablement
les travaux, qui a enquêté, notamment en Inde, et qui a trouver et exposer un certain nombre de cas qui lui paraissent probants.
Moi, ce qui m'a paru très intéressant dans l'histoire de Stevenson, c'est qu'il ne s'est pas contenté d'aller justement en Inde où la culture, disons la civilisation, admet complètement ça. Il est allé aussi en Angleterre, il est allé chez les Indiens d'Amérique du Nord. Et en Angleterre, il raconte une histoire tout à fait extraordinaire qui est peut-être limite. Parce que, d'ailleurs, il est très prudent, hein, Stevenson, il a publié...
Et il a tout à fait raison, parce que je pense, si vous voulez, que si on peut, de manière un peu abrupte, énoncer une conclusion... On ne peut pas dire qu'il y a de preuves scientifiques de la réincarnation. Je ne sais même pas d'ailleurs si la phrase que je viens de prononcer a un sens, hein, ça j'en sais rien. Mais puisqu'on parle de parapsychologie, bon. Ce que l'on peut dire, si vous voulez, c'est que c'est une doctrine qui effectivement peut être l'objet de foi, peut-être d'une expérience personnelle qui serait à évaluer selon des critères qui ne sont pas nécessairement scientifiques. Et puis, il faut peut-être apporter tout de suite une précision, à savoir que ce qu'on appelle réincarnation, c'est-à-dire le fait de revenir, étant entendu que la grande question est qu'est-ce qui revient, quel est ce moi qui revient. Enfin, là on est en pleine philosophie ou théologie, en pleine religion. La question se pose de savoir si ce retour s'effectue toujours sur la Terre ou s'il s'effectue, je ne dirais pas dans d'autres lieux, mais dans d'autres états. Si on retrouverait le purgatoire, par exemple, ou des états intermédiaires, il y a des philosophes qui ont pensé qu'on pouvait se réincarner dans un animal, enfin même Platon, et d'autres au contraire qui estiment qu'on ne vient qu'une seule fois sur Terre. Mais que d'autres fois, il y a des états intermédiaires pour ce moi.
Oui, c'est vrai, parce que ce que je voulais
le corps. Oui,
ce que je voulais dire, c'est que Stevenson, dans sa prudence, grande prudence de psychiatre, hein, parce qu'il est psychiatre, hein, je crois, il avait publié son livre sous le titre 20 cas suggérants à la réincarnation.
Mais c'est ça.
Vous me permettez, je vais raconter concerne l'Angleterre, parce que ça m'a beaucoup frappé quand j'ai rencontré Stevenson, et je crois que c'est très très intéressant. Il est tombé sur une histoire assez extraordinaire et très triste aussi, dans une famille britannique. Deux enfants sont morts, une petite fille dans un accident de voiture, je crois que c'était une petite fille de 6 ans, une petite fille de 9 ans, et les parents qui ont réchappé à cet accident ont eu un nouvel enfant, et en fait ils ont eu des jumelles. Et ces deux petites filles, quelques années plus tard, alors qu'elles avaient toutes les deux, je crois, 5 ou 6 ans, avaient des personnalités complètement différentes qui rappelaient les personnalités des enfants disparus. Et Stevenson explique d'ailleurs que les parents n'avaient jamais dit la vérité à ses enfants, et qu'il y avait une des petites jumelles qui avait l'âge mental, enfin bon, entre guillemets, et le développement normal d'une enfant de 6 ans, tandis que la deuxième, qui avait exactement le même âge, sa sœur jumelle, se comportait comme une fillette beaucoup plus âgée, et comme une fillette de 9 ans. Bon, ça pose quand même des sacrées questions, vous ne croyez pas ?
Sans aucun doute. Ça suggère, mais il y a encore matière à discussion.